c'est genre. C'est un petit bout. C'est un petit bout, il me semble que j'ai pas. J'ai pas saigné. Content de vous voir ce matin. Content d'être parmi vous. Donc, on va continuer notre. Notre étude qu'on a commencé d'Éphésiens, évidemment. C'est quand même un petit bout de temps qu'on n'est pas allé creuser dans la lettre d'Éphésiens ensemble. Donc, on va, je vais faire un petit récapitulatif, si vous me le permettez, pour se remettre dedans. Mais on peut tourner dans Éphésiens 1, qui est notre texte principal. Éphésiens 1. Donc, on a commencé une série d'études, oui, sur Éphésiens, mais plus spécifiquement, ces temps-ci, on est sur les versets 3 à 14 du chapitre 1, qui sont une doxologie. On a vu qu'une doxologie, c'était une sorte de louange qui est faite à Dieu. À la gloire de Dieu. Donc, Paul est dans un élan de doxologie, de bénédiction à Dieu, dans lequel il nous étale certaines bénédictions qui sont trouvées en Christ. Et c'est ces bénédictions-là que l'on regarde ensemble. Et puis, on a vu aussi que du verset 3 à 14 dans nos traductions sont en cinq phrases, mais dans le grec, Paul la faisait dans une seule phrase. Donc on voit l'espèce d'élan, l'élan qui habitait Paul au moment où il a écrit cette doxologie, cette louange à Dieu. On a vu donc, jusqu'à maintenant, on a vu la doctrine de l'élection, qui est au verset 3 et 4. Dans laquelle il dit que Dieu nous a choisis d'avance, qu'il aime ses enfants d'un amour particulier, et que sa pleine bonté, et dans sa pleine bonté, dans sa pleine justice, il sélectionne ou choisit, ou utilisez le mot que vous voulez, des enfants pour les sauver gracieusement, pas parce qu'il le mérite, mais gracieusement par son amour, parce que c'est son plan et c'est son désir. Que c'est l'œuvre et que c'est le travail de Dieu seul de sauver l'homme. Et que nous sommes seulement récipiendaires de cette grâce. Et on a aussi vu là-dedans les objections qui venaient souvent contre l'élection, l'aspect que c'est injuste ou d'autres objections auxquelles on a répondu. Le deuxième point que l'on a vu ensemble, qui est aussi dans les versets 3 à 4, c'est l'adoption. Et qui est en lien avec l'élection, évidemment. Ici, on a simplement réalisé la richesse de notre héritage. Un héritage qui est divin, qui est dans les cieux. Puisque quand que Dieu nous adopte, il nous fait ses enfants. Il nous donne ce qui lui appartient en tant que père. Donc, on en comprend que c'est ce que les pères font d'habitude. Ils lèguent en héritage à leurs enfants. Dans un monde parfait et non corrompu comme le nôtre, parce que des fois ça n'arrive pas, évidemment. Mais dans un monde parfait, dans le monde divin surtout, l'adoption est un signe d'héritage, un signe d'appartenance. Et on a vu que nous sommes de cette façon mis en Christ. Cette expression « en Christ » qui revient souvent dans Éphésiens, qui reflète bien l'adoption divine en Jésus-Christ. Et troisièmement, on a vu la rédemption. Donc, on a aussi vu qu'une des bénédictions présentes dont Paul fait mention, c'est la rédemption. Rédemption et pardon des péchés, qui les deux allaient ensemble. Que l'homme est acquis par le salut en Jésus-Christ. Ça implique que nous étions morts, comme on a vu dans nos offenses, qu'on était morts dans nos péchés et qu'il est nécessaire pour l'homme de devenir parfaitement saint devant Dieu pour avoir accès au Père. Et on a vu que c'est par le sang de Christ qu'on a cette rédemption-là. que le sang signifie une expiation des péchés, un pardon des péchés, qu'il y a un échange de vie qui est fait. Et quatrièmement, on a vu la bénédiction du pardon des péchés, qui est évidemment liée à la rédemption, et qui est le pardon des péchés qui est effacé par le sang de Christ, qui est effectif et aussi légal, dans le sens où Dieu nous pardonne légalement et nous pardonne efficacement. Nous sommes pleinement saints devant lui à cause du sang de Christ. Et donc, il ne nous voit plus comme ayant des fautes, mais comme étant parfaits. Et que Dieu ne nous juge plus selon la faiblesse humaine de notre chair qui reste encore un combat ici sur terre, mais selon la perfection du sacrifice ultime de Jésus-Christ. Donc, c'est dans cette lignée-là ce matin que l'on va continuer à regarder. Ce matin, on est rendu au verset 9 et 10 de Éphésiens, et le titre pas très original de mes messages, les bénédictions en Christ, la révélation de la volonté de Dieu dans l'histoire. Donc, pardon. Ce matin, on continue dans ces bénédictions pour y voir la révélation de la volonté de Dieu au travers de l'histoire. Et vous savez, c'est un très grand sujet, c'est un sujet qui est grandement étudié en théologie. On appelle ça souvent la théologie biblique, non pas parce que c'est une théologie qui est littéraire, mais c'est parce que c'est une théologie qui prend en ensemble la globalité de la foi chrétienne et qui la regarde sur un angle plus global. Et c'est un grand sujet, un sujet très large et très intéressant, franchement. Et on va en toucher seulement quelques parties ce matin, parce que, comme j'ai dit, c'est trop large, je ne peux pas toucher à tout. Mais on va voir quelques aspects ensemble dans les versets 9 à 10 que l'on va aller lire avant de continuer. Versets 9 à 10 de Éphésiens 1. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. On va prier. Seigneur, nous prions ce matin que tu bénisses ta parole, que tu bénisses l'enseignement de celle-ci, Seigneur. Nous voulons être à l'écoute de ce que tu nous partages, Seigneur, ce matin par ces quelques versets. Rends-nous humbles dans l'apprentissage, Seigneur, de ces choses. Et surtout, mets en nos cœurs le désir de pratiquer tes ordonnances, Seigneur. Amen. Donc, il y a trois choses que j'aimerais voir avec vous ce matin. Premièrement, on va aller lire, en fait. Non, j'ai déjà lu, excusez, je suis tout mêlé. J'ai déjà lu. Donc, les trois choses que je vais voir ce matin. Premièrement, qu'est-ce que c'est la révélation? Révélation divine. Et pourquoi est-ce que c'est important? Deuxièmement, on va voir qu'est-ce que c'est exactement le mystère de la volonté dont il est question. C'est quoi le mystère? Et troisièmement, nous allons voir un petit peu l'ultime majesté de Jésus-Christ. Donc, le premier point, la révélation. Vous savez, avant même d'entrer dans l'analyse du texte, puis de voir les versets, les phrases, les structures, etc., et de voir quel est ce mystère dont Paul parle, il nous faut comprendre la nature de ce que c'est une révélation divine. Vous savez, je crois que beaucoup de problèmes doctrinaux dans les églises évangéliques seraient probablement résolus par une compréhension plus adéquate de ce que c'est la révélation. Toutes les questions de dons signes, des dons miraculeux, du parler en langue, toutes ces choses-là tirent leur souche à la base de ce que l'on comprend de la révélation divine de Dieu. et je ne vais pas rentrer dans tout ça, si c'est votre questionnement. Peut-être un jour, je vais le faire certainement, mais pas ce matin. Mais comme dans, dans plusieurs cas, vous savez, ce n'est pas... parce que possiblement que vous me dites, mais pourquoi tu parles de révélation, Michael? Il n'y a pas le mot révélation là-dedans. Dans tout ce que tu as lu, il n'y avait pas le mot révélation. Peut-être que c'est la question que vous vous posez. Parce que c'est vrai, le mot révélation n'est pas strictement écrit dans les deux versets. Mais comme dans plusieurs cas, ce n'est pas parce qu'un un mot n'est pas dans le texte que la pensée ou que la thématique ou que l'idée n'est pas dans le texte. Donc, il ne faut pas nécessairement toujours chercher pour un mot spécifique. Il faut chercher aussi pour l'idée derrière le mot. Et je crois que c'est ce que Paul fait ici. Il parle clairement de révélation et je vais vous le démontrer. L'idée de la révélation est certainement le point de départ de Paul au verset 9. Il introduit l'idée du mystère avec « nous faisant connaître ».« Nous faisant connaître ». Donc, trois mots qui définissent ce que c'est la révélation. En fait, Paul ne dit pas le mot révélation, il prend la définition de celle-ci. Voici la définition d'un dictionnaire biblique de ce que c'est la révélation. Le mot révélation signifie au sens large toute action par laquelle une chose cachée est dévoilée au sens de l'homme, donc découverte à son esprit et rendue évidente à son sens intérieur. Toute connaissance nouvelle est à la bien prendre une révélation. Dans le domaine religieux, révélation et connaissance de Dieu sont des notions corrélatives, c'est-à-dire qui ont un effet l'un sur l'autre. On peut à cet égard parler de la révélation de Dieu que donne la nature et la conscience humaine. Donc c'est une définition très large là, de ce que c'est la révélation de Dieu. Donc quand Paul dit ces fameux trois mots « nous faisant connaître », il parle de révélation. Donc, on en comprend très bien que même si le mot, il n'utilise pas le mot « Dieu nous a révélé », il parle quand même très bien de révélation. Donc, oui, en ce sens, Paul parle de révélation, de ce mystère, puisque c'est ça qu'il fait connaître, ce mystère que l'on va voir plus tard. Donc, il devient évident quand nous combinons le sujet du mystère avec nous faisant connaître que Paul parle effectivement de la révélation spéciale. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une compréhension juste de ce que c'est la révélation de Dieu? Parce qu'elle peut être vue d'une certaine façon comme une espèce de cadre où on peut connaître ou non Dieu. Donc, la révélation de Dieu, c'est le cadre dans lequel on apprend à connaître Dieu. Et tout ce qui est à l'extérieur de ce cadre-là n'est plus de Dieu. Donc, on apprend à connaître quelque chose d'autre, mais c'est pas Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui font ça. Ils enseignent des choses qui ne sont pas dans le cadre de la révélation. Et ils apprennent des choses, mais je suis pas convaincu que ça parle de Dieu, ce qu'ils apprennent. Donc, on doit voir ça comme un espèce de cadre. Puis le cadre, ben, c'est ça. C'est la révélation de Dieu, sa parole. Je vais tout en parler un petit peu plus tard. Donc, elle établit aussi les limites entre ce qui vient de l'homme et ce qui est de Dieu. Entre ce que pense l'homme de Dieu et ce que Dieu dit de lui-même. Vous savez, il y a un monde de différence entre ces choses-là. Bref, toutes ces réflexions sont primordiales à comment on conceptualise Dieu et sa parole, et quelle importance on lui donne dans l'interprétation de nos vies de tous les jours. Et là, je vais tourner dans notre belle confession de foi, la 1689. Dans le chapitre 1, le tout premier article de la confession nous parle exactement de ces principes de révélation de la parole de Dieu. On retrouve un bon résumé sur le sujet, donc. Je vais vous le lire en espèce de bloc, puis je vais commenter. L'article 1 dit la chose suivante. L'Écriture sainte est la seule règle suffisante certaine et infaillible de tout, de toute connaissance qui sauve, de foi et d'obéissance. Donc, en partant, notre confession, je dirais, elle met un bon cadre. On parlait de cadre, tantôt, ça en est un. Donc, l'Écriture, la parole de Dieu, est suffisante pour tout. Pour tout ce qu'on a besoin pour être instruit. Est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu nous dit exactement tout sur tous les sujets de tout l'univers, de tous les temps? Non. Mais ça veut dire qu'elle est suffisante, moralement, pour qu'on puisse réfléchir nous-mêmes et en venir à des conclusions qui sont saines, qui sont morales, qui sont simples. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance, de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. Très longue phrase, mais ce que ça dit principalement, c'est que il y a une partie de la révélation de Dieu que l'on va voir. Dans le fond, ce texte parle de la révélation qu'on appelle générale. Une partie de la révélation de Dieu qui est naturelle. On regarde dehors, on voit la création, on se doute qu'il y a un créateur. Et cet aspect-là naturel, observable, de la révélation divine, qui rend les hommes inexcusables. Mais comme le dit la parole de Dieu puis notre confession de foi, celle-ci n'est pas assez pour donner le salut à l'homme. Donc on ne peut pas être sauvé juste en regardant les arbres. C'est impossible. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on a besoin d'entendre l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour être sauvé. Donc, il y a une partie de cette révélation qui est générale, qui est accessible à tout homme et qui rend tout homme coupable, mais qui ne sauve pas nécessairement tout homme. En fait, qui ne peut pas sauver l'homme. Et on va voir pourquoi. C'est parce qu'on a besoin de la révélation spéciale de la parole de Dieu. Et donc, elle finit comme ceci. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Donc, évidemment, Dieu, au travers de l'histoire, a parlé de façon auditive à Moïse, s'est révélé même à certains hommes de façon visuel, pas que c'était Dieu qui voyait, mais il voyait une manifestation de Dieu, et cette gloire-là était tellement glorieuse que certains ont failli y mourir. Dieu s'est révélé par des songes dans l'histoire, Jésus a fait des miracles au travers lui-même, Jésus-Christ, mais au travers aussi ses apôtres. Donc, il y a plein de façons au travers l'histoire que Dieu s'est révélé. Et donc, les cessationnistes, comme moi, comme l'Église et officiellement, ne sont pas dans le déni que ces choses-là ont arrivé. Donc, ce sont tous des instruments que Dieu a utilisés au travers de l'histoire pour se révéler. Et évidemment, ils sont bonnes. Il était nécessaire. Il avait un but dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, ce paragraphe 1, ce premier paragraphe de 2, nous présente ce qu'en théologie est appelé la révélation générale. Donc, c'est-à-dire la révélation de Dieu au travers les moyens naturels, au travers ce qui est observable à l'œil humain, c'est-à-dire la science derrière la création, la philosophie, la raison humaine même. La révélation générale est quelque chose qui est tangible, qui est percevable pour tout homme. Donc, tout homme a accès à cette révélation-là. Certains théologiens vont même jusqu'à inclure la conscience humaine dans cette catégorie et la providence comme des preuves de la révélation générale de Dieu. Mais l'article 1, cependant, continue avec un deuxième paragraphe qui est aussi important, qui nous présente un deuxième type de révélation que j'ai déjà mentionné, qu'on appelle la révélation spéciale. Et voici ce qu'il dit. Ensuite, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Donc, on arrive à un point dans l'histoire où, pour protéger sa parole, pour protéger sa révélation, Dieu décide de léguer à l'homme, et là, ça a commencé avec Moïse qui a écrit le Pentateuque, évidemment, là, parce qu'on ne nie pas l'inspiration de l'Ancien Testament. Ça a commencé par Moïse et ça finit par les apôtres dans le Nouveau Testament. Au commencement, au balbutiement de l'Église du Nouveau Testament. Et Dieu a inspiré et s'est abaissé à faire que sa parole serait écrite et compréhensible, comprenable par tout homme. Vous savez, dans certains cercles, on n'a pas. Il y a comme certains niveaux de salut, de certains niveaux de zèle, de foi, qui sont atteints par différentes méthodes, que ce soit le baptême du Saint-Esprit ou toutes sortes de choses comme ça. Et vous savez, ce qui est triste là-dedans, c'est que on oublie que la parole écrite de Dieu est le plus grand miracle et la plus grande bénédiction qu'on a en tant qu'être humain. Ce n'est pas le culte de l'émotion, de ce qu'on peut ressentir dans un moment d'extase musicale. Toutes ces choses-là sont bien, mais en bout de ligne, ce qui est vraiment important, c'est que Dieu nous a légué sa parole écrite et que n'importe qui ici peut prendre une Bible et lire les paroles de Dieu. Ça, c'est une incroyable bénédiction et de renier ou en tout cas de diminuer l'importance de l'étude de cette parole, c'est de grandement minimiser ce que Dieu a donné à l'homme de plus cher. Et le paragraphe finit comme ceci, « Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable. » Indispensable. « Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple comme il l'avait fait jusque-là. » Donc, ce que ça veut dire, ce dernier bout de paragraphe, c'est que la révélation spéciale de Dieu, c'est la révélation de Dieu qui mène au salut. Et autrefois, Dieu utilisait des moyens comme les miracles, les dons-signes. Toutes ces choses ont eu un but, surtout dans l'accomplissement, l'établissement apostolique de l'Église du Nouveau Testament. Mais depuis qu'on a le Nouveau Testament, Tout le canon de la Bible, toute la pensée de Dieu qui est écrite, ces choses-là ne sont plus nécessaires. Parce qu'on a tout ce que Dieu nous a demandé, nous a prescrit. Et ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus le Saint-Esprit. Évidemment, le Saint-Esprit est indispensable pour comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ça veut certainement dire qu'on croit que Dieu ne se manifeste plus comme il se manifestait dans l'Ancien Testament, de façon auditible à l'homme, de façon visuelle à l'homme, par des miracles faits à main d'homme. Je crois que Dieu fait encore des miracles, mais je ne crois pas que les hommes, comme les apôtres, ont maintenant le pouvoir de guérir des gens juste en les touchant. Ces choses-là avaient un but. Et là, on parle de révélation spéciale, fait que je touche un peu à un sujet que je sais qui est un petit peu pointilleux peut-être pour certains d'entre vous, et ça me fera plaisir un jour d'y revenir, soyez sans inquiétude, mais je croyais quand même important de globaliser un petit peu la pensée que notre confession de foi nous démontre par ce paragraphe. Et donc, on met vraiment l'accent depuis l'ère apostolique, depuis que les apôtres ont fondé l'Église, sur le fait que la parole, le canon de la Bible, la parole de Dieu est établie. Et que c'est tout ce que l'on a besoin pour ce que ça disait au premier chapitre, règles suffisantes, certaines, infaillibles, pour toute connaissance qui sauve. Donc, il est ici question de la révélation spéciale, c'est-à-dire de la révélation qui passe par des moyens autres que ceux qui sont concevables par l'homme, qui sont observables par l'homme. Donc, la révélation de la parole de Dieu, la Bible, les miracles ou toute autre connaissance surnaturelle serait inaccessible à l'homme naturel sans l'intervention de la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on sous-entend par révélation spéciale. Ces deux types de révélations sont centrales à notre compréhension de l'Évangile, puisque la révélation générale nous rend coupables et inexcusables, mais le salut ne vient jamais sans une révélation spéciale qui soit extérieure à l'homme. Ce qui place tout homme dans une situation absolument désespérée, sans l'intervention divine, bien sûr. Ce qui est important, c'est de comprendre que le canon de la Bible, la révélation dite spéciale de Dieu, a bel et bien cessé. Vous savez, c'est courant de nos jours d'entendre des gens dans certains cercles nous dire que Dieu leur a révélé quelque chose. Et vous savez, de mon expérience personnelle, ironiquement, ce que le Saint-Esprit leur révèle supposément est pas mal toujours contraire à ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour ça que l'on croit à un canon fermé. Et quand on parle du canon de la Bible, en passant, c'est l'ensemble des Écritures saintes. Ça, c'est considéré comme le canon de la Bible. C'est-à-dire les livres qui sont reconnus comme étant inspirés de Dieu. Et on ne croit pas qu'à l'extérieur de ça, qu'il y a d'autres révélations aujourd'hui qui se passent. Vous savez pourquoi? Parce que si c'était le cas, il faudrait que toutes ces révélations au travers de l'histoire aient été écrites à quelque part. Sinon, c'est un blasphème. Parce qu'on n'a pas enregistré les paroles de Dieu. Donc, où sont le reste des révélations de Dieu, si ce n'est que dans ce livre-là, que Dieu a protégé au travers de l'histoire? Ce qui est troublant, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui prétendent avoir de ces révélations directement de Dieu. Mais ces révélations sont extérieures à ce que la Bible dit. Et en ce faisant, ils se présentent eux-mêmes comme des autorités suprêmes équivalentes à la parole de Dieu. Donc, ils deviennent des petits papes qui ont une autorité absolue sur au même niveau que la parole de Dieu. Parce que, soyons clairs, la révélation de Dieu est autoritaire. Donc, si on reçoit personnellement une parole révélatrice de la part de Dieu, on est en position de pleine autorité, là. Donc, il n'y a donc plus de révélation spéciale. Nous devrions plutôt parler d'une illumination. Je sais que c'est des termes un peu bizarres, là. Je suis illuminé par la parole de Dieu. Ça fait un peu étrange. On n'est pas habitué à ça, mais pourtant, c'est quand même le bon langage à avoir. Puis bon, je comprends que plusieurs d'entre nous, on va dire, « Ah, j'ai lu quelque chose, puis Dieu m'a révélé, qu'est-ce que ça voulait dire? » Je comprends ce que vous êtes en train de dire. C'est pas « Dieu m'a parlé directement, il m'a dit ça, ça veut dire ça, Michael. » Je comprends que c'est pas dans cet aspect-là. C'est que le Saint-Esprit vous a éclairé et vous avez compris quelque chose. Et c'est ce qu'en théologie, on appelle l'illumination du cœur. Donc, le Saint-Esprit démontre ce qui est dans la parole de Dieu et l'éclaire à nos vies. Mais ce n'est pas une nouvelle révélation. Parce que la révélation est déjà là. C'est juste que Dieu, par le Saint-Esprit, nous la fait comprendre. Il illumine ce qui est déjà là. Comme quand on met la lumière d'une pièce. On voit les objets qui étaient déjà là. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ajouté ou de nouvellement révélé, mais c'est simplement quelque chose qui est compris. Ceci nous apporte à un point pratique, c'est-à-dire de rendre grâce à Dieu pour de nous avoir révélé sa pleine et suffisante parole. Et c'est un point de gloire que l'on devrait rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu de nous avoir donné cette pleine et suffisante révélation pour le salut. Et on peut parler historiquement de la révélation de la parole de Dieu, comme étant une révélation spéciale du salut qui est là-dedans. Mais vous savez, sans la révélation personnelle dans nos vies de Dieu, on ne comprendrait pas plus ce qui est dans le livre. Donc, on doit aussi rendre gloire à Dieu de nous avoir révélé un jour ce qui était caché à nos cœurs, la compréhension de sa parole, de ce qui est la vérité. Et vous savez, c'est la raison qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de nouveaux apôtres, qu'on n'a plus besoin de nouveaux prophètes, puisque la Bible accomplit déjà cette œuvre de connaissance qui était donnée auparavant aux apôtres et aux prophètes. Qu'est-ce que les apôtres et les prophètes faisaient? Les apôtres avaient la mission de bâtir l'Église, les prophètes avaient la mission dans l'Ancien Testament de parler au nom de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est déjà bâtie sur quel fondement? Celui de la parole de Dieu, le fondement apostolique des apôtres. C'est ce que Acte 2 nous dit. Et les prophètes, eux, ben, qui étaient souvent tués par Israël parce qu'ils parlaient la parole de Dieu qui était véritable, pourquoi on n'en a plus besoin? Parce que la Bible nous dit déjà ce que les prophètes venaient faire. Donc, les deux tâches sont déjà accomplies. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin, dans le Nouveau Testament, de ces positions. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'apôtres en autorité d'écrire de nouvelles révélations. Parce que tout ce qu'on a besoin nous est donné déjà. Donc, ce qui était autrefois des méthodes d'ailleurs imparfaites, et là, je suis pas en train de dire que faut plus lire l'Ancien Testament et les prophètes parce que c'est pas vrai, mais c'était quand même une méthode imparfaite. Dieu parlait par des hommes imparfaits, mais aujourd'hui, il nous parle par le texte de la parole de Dieu, qui comprend les prophètes, entre autres. Donc, on a mieux que ce que les prophètes pouvaient donner au peuple d'Israël. On a la pleine, parfaite révélation de la parole de Dieu, qui lui-même a accepté de mettre en écrit. Sachant que l'homme devait avoir cette connaissance pour le salut. Vous savez, nous n'avons pas non plus à jouer à la devinette pour connaître la volonté de Dieu. Heureusement, parce que sa volonté est écrite, elle est immuable, donc elle ne change pas. Et il nous la transmet par le fondement solide des apôtres. Une fois pour tout, nous dit Acte 2. C'est pourquoi d'ailleurs l'Évangile nous dit que le salut vient de ce que l'on entend. Donc sans la proclamation de cette parole révélée à l'homme, il n'y a aucune puissance dans notre message. Et c'est pourquoi l'évangélisation ne devrait pas nous intimider tant que ça. Dans le sens où on est un haut-parleur sans puissance. C'est pas nos paroles. Paul le comprenait très bien, ce concept-là. Il savait que c'était pas par sa persuasion qu'il allait convaincre les gens d'être sauvés. Il se voyait comme un haut-parleur qui proclamait l'évangile de Dieu et Dieu allait faire le travail dans le cœur des hommes. Vous savez, c'est pour ça que des fois, on s'acharne pas mal sur des gens. Puis, des fois, il faut prendre un petit peu de recul pour dire, est-ce que je peux juste peut-être prêcher la parole de Dieu puis laisser la conviction à Dieu? Dieu va se charger dans le cœur de l'homme de la conviction. Et vous savez, ça l'enlève un énorme fardeau d'évangéliser de cette façon-là. Ce que les gens ont besoin, ce n'est pas de nouvelles révélations. C'est de comprendre la seule et unique vraie révélation de Dieu dans sa parole. C'est de ça qu'ils ont besoin. Il nous faut donc reconnaître que ce mystère nous est révélé. Hein? On est parti loin quand même, là. On est parti des trois premiers mots du verset 9. On y arrive. Soyez patients avec moi. C'est ici une preuve de l'amour de Dieu pour nous. Il nous faut donc reconnaître que ce mystère nous est révélé. Premièrement, avant de même comprendre c'est quoi le mystère, c'est Dieu qui nous donne ce mystère, qui nous révèle ce mystère. Un autre aspect pratique que nous pouvons voir de ce mystère, c'est le double usage que Paul en fait. Peter O'Brien, un commentateur, le décrit bien ainsi. Les termes « nous faisant connaître » nous démontrent qu'il n'y a pas seulement une dimension historico-rédemptrice au mystère. Historico-rédemptrice, c'est un jargon théologique pour parler de l'histoire de la rédemption du plan de Dieu. Donc, il n'y a pas seulement une dimension historico-rédemptrice au mystère, mais aussi une dimension personnelle. Donc, les bénéficiaires de cette divulgation sont la communauté chrétienne, l'Église, qui sont donc capables de louer Dieu pour sa grande bonté prodiguée sur eux. Donc, oui, il y a un certain aspect de cette révélation qui est fait globalement, qui est fait au nom de la grande histoire de la rédemption du plan de Dieu. Mais il y a aussi un aspect qui est très personnel, où Dieu nous révèle ce mystère pour le salut. Et là, je me trahis un peu pour mon prochain point, qui est qu'est-ce que le mystère, là, mais c'est correct. Donc, dans une facette, nous voyons la grande image, celle du plan de Dieu depuis toute éternité, de se glorifier par l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ. Dans un sens, ça devrait nous émerveiller de se voir comme faisant partie de ce grand plan de Dieu qui inclut un amour pour ses enfants qui soit salutaire. Et c'est là que ça devient personnel pour nous. Dieu met en œuvre depuis le chapitre 3 de la Genèse. À la chute d'Adam et Ève, après ce qui est le plan de rédemption, et même, on pourrait argumenter de toute éternité, son plan était fait. Mais dès la Genèse 3, on voit que Dieu, déjà, met en œuvre ce plan de rédemption en Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est primordial de reconnaître l'aspect historique de la création, vous savez, juste parenthèse, il y a beaucoup de gens dans le monde évangélique présentement qui se détachent d'une compréhension historique de la création du livre de Genèse. Ils vont le voir comme plutôt une fable ou une petite histoire morale et ne reconnaîtront pas de valeur historique à ce livre. Et c'est un grand danger parce que quand il y a plus d'aspect historique à la Genèse, tout le reste de la rédemption, de l'histoire de la rédemption devient très confuse et très aléatoire, là. Parce que c'est vraiment là d'où on tire la base. Cette révélation du mystère est donc à la fois un morceau de ce grand plan, mais aussi un espoir très personnel pour chaque enfant de Dieu. La révélation de ce mystère, selon Paul, est adressée aux croyants. Premièrement, évidemment, faut pas oublier qu'il parlait aux Éphésiens quand il écrit la lettre. Et il est considéré comme des saints. On l'a vu, la première enseignement que j'ai fait sur Éphésiens. Nous pouvons donc louer Dieu individuellement de nous avoir mis collectivement en Christ. C'est ici qu'il est important de comprendre ce qu'est le mystère en question. Ce qui nous amène au deuxième point. Le mystère de sa volonté. Le concept du mystère est régulièrement employé dans la Bible. Un mystère, de façon générale, c'est quelque chose qui est caché, qui est secret. Dans le langage de la Bible, Sinclair Ferguson décrit un mystère comme n'étant pas un casse-tête qui est toujours en attente d'être résolu. Donc, ce n'est pas un casse-tête qu'on attend de mettre les morceaux ensemble. Mais c'est un secret qui peut être connu seulement quand Dieu le révèle. Peter O'Brien, lui, dit « Le mystère de Dieu met l'accent sur le salut par la croix de Jésus-Christ. Il ne peut pas être compris par la sagesse humaine, mais peut seulement être connu quand Dieu le révèle par son esprit à ceux qui l'aiment. » Donc, le mot « mystère » revient 21 fois dans les épîtres de Paul. Et une grande partie de ces 21 fois-là est dans Éphésiens, d'ailleurs. On peut commencer à y entrevoir un concept que Paul aime certainement utiliser. Sa conception de l'œuvre de Dieu est grande et large. Il voit un plan plus vaste que sa propre personne en exécution. Il voit l'Église en construction et le plan de rédemption que Christ vient conduire. Il faut premièrement reconnaître que le mystère de sa volonté est fait selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, dans le but de le mettre à exécution au temps voulu. Donc, tout comme dans le verset 5, qu'on avait vu là quelques semaines, Dieu nous a prédestinés selon quoi? Selon le bon plaisir de sa volonté. Encore une fois, ce même type de raisonnement qui revient. Il nous fait aussi connaître le mystère de sa volonté, par ce même bon plaisir, par cette même volonté. Alors que Paul nous parle ici de grandes théologies, de grandes doctrines qui sont quand même profondes pour le christianisme concernant le plan de Dieu, il nous est souhaitable de se rappeler que le plan de Dieu est fait selon son bienveillant dessein dans tous les détails de nos vies. Vous savez, même quand nos circonstances peuvent sembler difficiles et injustes, le plan de Dieu est bon et parfait. Nous devons croire que ce plan inclut la bonté de Dieu et qu'un jour, la souffrance que nous vivons ne sera plus. Pardon. Malgré l'injustice et le péché qui habitent ce monde, malgré les tragédies comme on a vu cette semaine à Nice, Dieu a un plan parfait. Et un jour, nous serons témoins de l'achèvement de ce plan parfait. Et ça devrait nous donner espoir. Le plan de Dieu inclut autant les grandes vérités doctrinales de la parole de Dieu que nos petites vies quotidiennes. Paul qualifie l'action de Dieu de deux façons avant de partager la réponse elle-même à ce que c'est le mystère. Premièrement, il dit spécifiquement que c'est Dieu lui-même qui nous a révélé ce mystère. Il le fait selon sa volonté. Donc, on y voit clairement un aspect où Dieu prend plaisir à se révéler à l'homme. Il prend plaisir à révéler son plan. Même si ce n'est pas dans tous les détails infinis de sa perfection, il nous révèle son plan tout de même. Deuxièmement, que Dieu a révélé ce mystère à son peuple, à ses enfants. C'est à eux qu'il a décidé de le révéler. Et que c'est à eux seuls qu'il le fait connaître. Frank Tillman, un commentateur, résume bien cette portion du texte ainsi. Dieu fit connaître le mystère à son peuple parce que cela lui donna plaisir de le faire. Et de le faire d'une manière qui fait de Christ le point central d'importance. Sa révélation du mystère à son peuple faisait partie de l'administration de son œuvre dans l'histoire pour accomplir ses desseins ultimes. Nous voyons que Paul, dans les versets 3 à 6, célèbre les bénédictions passées par l'élection, par l'adoption. Au verset 7 à 8, il célèbre les bénédictions présentes, la rédemption, le pardon des péchés. Et voici que dans les versets 9 et 10, ce sont des bénédictions futures. Ayant en tête ces deux qualifications du mystère révélé, retournons à notre question initiale qui reste à être répondue. Qu'est-ce que c'est le mystère en question dont Paul nous dit être révélé maintenant? Paul répond lui-même à cette question au verset 10. Le mystère révélé, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et vous savez bien que ça peut sembler quelque peu banal, un peu comme réponse. Ce qui est compris par réunir toutes choses en Christ n'est pas source de consensus parmi les meilleurs théologiens de l'histoire. Donc, je vous le dis, j'ai fait beaucoup de grattage de tête cette semaine. C'est pas, ça paraît simple, mais ce n'est vraiment pas un passage simple d'Éphésiens. Il y a quand même beaucoup de débats sur l'étymologie des mots grecs et tout ça et ce que ça veut dire. Et bien que je vais vous épargner tous ces détails, c'est quand même très intéressant. Bien que cela peut sembler peut-être simplet comme façon, il y a plusieurs possibilités d'interpréter ce que ça veut dire. Voici ceux que j'ai trouvés particulièrement intéressantes et dignes de considération de notre part. Donc, premièrement, il faut savoir que le verbe utilisé pour réunir toute chose, c'est un peu le point de débat, peut avoir trois significations dans son étymologie. L'étymologie étant l'étude de la racine des mots, de ce que les mots veulent dire. Premièrement, ça peut vouloir dire de réduire à une somme ou de récapituler, de mettre ensemble. Ça peut aussi vouloir dire d'unir sous un seul chef ou sous une seule tête. pour employer le langage biblique. Et troisièmement, ça peut finalement vouloir dire de renouveler toute chose. Donc, selon Charles Hodge, plusieurs pères de l'Église adoptaient la troisième signification qui conclut que le mystère de Christ, c'était une espèce de réconciliation cosmique de toute chose. Pour ce qui est de la première position, c'est-à-dire la récapitulation, qu'est-ce que de réunir toutes choses en Christ? Qu'est-ce que ça l'inclut? Qu'est-ce que ça sous-entend? Selon Frank Tillman et Peter O'Brien, deux des commentateurs que j'utilise, cette phrase est une forme de récapitulation globale, ou une sorte de syntaxe de l'œuvre de Dieu à travers Christ. C'est-à-dire qu'elle exprime l'idée que Christ est la somme de toutes choses dans le plan divin. Que c'est d'apporter un ordre créationnel à toutes choses. Dans cette analyse du texte, Christ devient donc la personne en qui tous les aspects disparates, fragmentés de la création sont universellement unis sous un ordre divin. C'est un peu l'idée qui prennent un peu l'idée de l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Donc Dieu est le commencement et la fin par Christ. O'Brien dit « Le mystère que Dieu a gracieusement fait connaître se réfère à la sommation de toutes choses, réunissant la fragmentation des éléments fractionnés de l'univers, donc toutes choses, dans le Christ, le point central. » Cette explication prend en considération l'état de la création depuis le péché. Donc, elle sous-entend que à cause du péché, tout la création de Dieu, la nature, l'homme, tout a été brisé, fractionné, et tout a besoin d'être uni par Christ, en Christ. Et quand on y pense, c'est un concept qui fait quand même du sens. Bibliquement parlant, on voit certaines brides dans la parole de Dieu de ce concept. Le deuxième étant l'union sous un chef. Donc, la deuxième signification du verbe peut être compris comme étant une union sous un chef. Et pour leur part, Kent Hughes et William Hendrickson sont deux commentateurs qui adoptent la deuxième étymologie et qui mettent l'emphase sur Christ comme étant le chef, comme Christ étant la tête qui unit tout sous lui. Et vous savez, il semble assez naturel d'ailleurs de reconnaître qu'effectivement, si tout est réuni en Christ, comme Paul emprunte souvent l'expression « en Christ » dans Éphésiens, alors Christ est sûrement le chef de cette espèce de réconciliation. Donc l'argument a tout autant plus de poids considérant que plus tard, dans les chapitres 2, 3 et 4 même de Éphésiens, Paul va exposer ce même sujet en plus de profondeur. Donc le règne de Christ comme chef de son Église, entre autres, est un sujet assez clair dans la parole. Ici, cependant, il est question de plus que l'Église, puisqu'il y a mention de toutes choses sous les cieux aussi. Donc on parle des anges, on parle de tout. Tout. La troisième position, qui étant la réconciliation, et c'est vraiment pas compliqué, donc je perdrai pas trop de temps là-dessus, c'est la troisième signification du verbe qui met l'accent sur tout simplement une réconciliation, c'est-à-dire un retour à ce qui était autrefois. C'est cette emphase que les pères de l'Église semblaient privilégier. Et donc après, excusez, vestiges de rhume. Après avoir étudié le passage pour quelques heures cette semaine, voici ma position. Je crois qu'il faut se rappeler que dans ce type d'études assez précises, là, où est-ce qu'on zoome sur des mots particuliers, puis on est très pointilleux, il y a rarement une solution absolue et très claire. Donc, les mots, dépendamment de leur contexte, peuvent souvent avoir une signification plus ou moins claire, mais généralement, on en comprend ce que avec le contexte, que ça veut dire. Dans ce sens, je crois que les trois aspects du verbe doivent être considérés. Dans le sens, je ne crois pas que c'est un ou l'autre. Je crois que les trois aspects de ce que le verbe veut dire doivent être considérés un peu comme un ensemble pour comprendre bien ce que Paul sous-entend par ce mystère. Et dans ce sens, j'apprécie beaucoup la position de James Montgomery Boyce, qui dit, je cite, « Ce que le Verbe dit vraiment, c'est que le but de Dieu est de rassembler, d'unir ou de récapituler toute chose de nouveau en Jésus-Christ. En d'autres mots, tout était uni en Jésus autrefois et a cessé d'être uni à lui à cause de la chute, mais sera réuni à nouveau en lui par la rédemption. » Donc, je trouve qu'il met bien ensemble ces plusieurs concepts. Et vous savez, cependant, il fait attention de ne pas confondre l'union de tout en Christ par ce qui pourrait être compris comme un espèce de salut universel. Donc, il n'est pas question ici d'un salut universel. La parole de Dieu est très claire dans d'autres passages que ce n'est pas tout homme qui va être sauvé. Donc, ce qu'il dit à propos de ça, c'est que ça n'enseigne... Ceci enseigne plutôt que toutes ces choses seront soumises au Christ. Donc, certains vont être soumis volontiers, ceux qui ont été rachetés par Jésus et qui s'exaltent joyeusement de son règne, c'est-à-dire nous, l'Église, les chrétiens. Et certains vont l'être à contre-cœur, ceux qui font le mal et qui pourtant seront tenus et forcés de reconnaître Jésus comme Seigneur de tous. Donc, le cœur du mystère révélé, c'est en partie l'aspect de la réconciliation, mais aussi du règne de Christ comme étant le chef. C'est ces deux choses ensemble. Les deux ensemble forment l'idée, je crois, que Paul essaie de communiquer de l'absolue majesté de Christ. Et qu'est-ce qu'on sous-entend par le mot majesté? On sous-entend un roi, une royauté. Quelqu'un qui gouverne et qui règne. Vous savez, ce glorieux mystère que le plan de Dieu révélé est qu'un jour, un jour, tout en l'homme, c'est-à-dire à l'intérieur de l'homme, et tout entre les hommes sera rétabli. Et qu'un jour, l'harmonie dans la Nouvelle Jérusalem et dans toute création sera parfaite. L'harmonie au ciel sera parfaite. Toutes ces sphères seront unies sous un seul chef, certains par joie, d'autres par contrainte. Mais tous devront reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est la tête autoritaire de toutes choses. À nouveau, comme dans le jardin d'Éden, avant la chute, tout sera uni divinement. Mais cette fois, ce sera pour l'éternité. Et c'est là la gloire de ce mystère révélé. C'est ici la gloire du mystère qui nous est révélé que Dieu, dans son plan, sera victorieux et qu'il réconciliera en lui toute personne. Je termine en conclusion par le point sur la majesté de Jésus-Christ. En conclusion, ce matin, nous devons reconnaître que par ce mystère qui nous est maintenant révélé, que Jésus-Christ est d'une gloire et d'une majesté qui n'est comparable à aucune autre. Christ est majestueux puisqu'il est le Seigneur de tout l'univers. Et un jour même, les méchants qui renient aujourd'hui la divinité de Jésus seront forcés de reconnaître que son autorité est juste. Leur sort éternel ne sera pas différent pour autant. Ils vont finir dans la géhenne, comme la parole de Dieu le dit. Et c'est pourquoi c'est aujourd'hui que la parole de Dieu nous appelle à proclamer l'évangile de la bonne nouvelle, et non pas quand ces gens-là vont mourir parce qu'il va être trop tard. C'est aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps pour ceux-ci d'entendre et de se repentir. Et quelque chose est certain, c'est que la majesté de Dieu sera manifeste autant par ses enfants que par ceux qui sont condamnés. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté pour réfléchir à ça, mais tout, ultimement, va rendre gloire à Dieu. Que ce soit le salut de ses élus ou la condamnation des méchants. La condamnation des méchants va rendre gloire à Dieu. Qui d'autre que notre Sauveur serait adéquat pour réconcilier ce qui a été brisé après la chute. Jésus-Christ est certainement le seul être vivant à pouvoir unir en lui et par lui toutes ces portions de la création qui ont été brisées par le péché. Et donc ce matin, en conclusion, rendons gloire à Christ, le reconnaissant comme notre sauveur, oui, mais aussi comme le Seigneur majestueux qui un jour va régner sur toute création, que ce soit dans le ciel ou sur la terre. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton règne qui arrive bientôt, Seigneur. Nous voulons proclamer pendant qu'il y a encore le temps, Seigneur, le salut par ta grâce à tout homme qui désire écouter. Donne-nous du zèle, donne-nous obéissance, donne-nous reconnaissance, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu es majestueux, que tu es notre roi, sauveur et Seigneur. Merci pour cette parole, merci pour cette matinée et pour ton Église qui s'assemble pour t'écouter et te glorifier. Amen.
Amen.
Je crois que tu avais un chat.